Nous petit déjeunons ce matin avec Bernard Werber. Bernard Werber, bonjour.
Bonjour.
Alors vos livres ont été traduits en 35 langues avec 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Vous êtes avec Marc Lévy, je crois, l'un des deux auteurs français contemporains les plus lus au monde. Vous êtes là parce que vous sortez en ce moment, enfin début octobre, Le rire du cyclope. Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?
Alors, du thé vert et un cannelé ou alors un flan à la pistache. Non, pas du tout. J'ai découvert
un flan à la pistache.
Oui, un flan à la pistache.
Ouais.
Je sais pas, j'adore le goût.
Où est-ce que vous procurez des flans à la pistache le matin ?
À la boulangerie qui est à côté de chez moi, mais j'aime bien en fait le goût des amandes. En fait, il y a un goût que j'adore. C'est plutôt une odeur. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez quand on était petit, cette colle Cléopâtra. Cette amande douce, voilà, on appelle
ça. Non,
moi je suis
britannique, non, j'ai pas eu la colle Cléopâtra.
il y avait une sorte d'odeur d'amande douce, et ça, c'est vaguement l'odeur de la pistache, et j'adore retrouver ce goût d'enfance dans mon flan. Maintenant, on appelle ça pistache, mais quand on mange une pistache, ça n'a rien à voir avec l'amande douce.
Alors, vos goûts en matière de musique nous intéressent aussi, et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'une de vos réponses à notre questionnaire, la musique qui vous fait rire.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République.
Ah, République, vous étiez en train de...
Voilà. J'apprenais ces paroles par cœur quand j'étais jeune, maintenant je vois qu'il me prend.
C'est Boris Vian, pourquoi ?
Ah, je suis un fan complet du bonhomme, en tant qu'écrivain, en tant que trompettiste, en tant que chanteur, et puis en tant que remueur d'idées. C'est un type fabuleux, un scientifique à l'origine d'ailleurs.
Alors,
un ingénieur. Et ses paroles sont vraiment fondardes.
Alors, si on a choisi cette musique, c'est parce que vous sortez. C'est le 1er octobre ou le 3 ? Vous avez décidé de venir toujours après le prix concours chaque année de sortir un livre, c'est ça ?
C'est pas bien, hein, faut que j'arrête. Non, c'est le premier mercredi, en général, le premier mercredi de la première semaine d'octobre.
Donc vous nous réservez en quelque sorte une exclusivité.
J'ai pas fait beaucoup d'interviews.
Non, j'ai
là.
Vu. On en est tout ému. Donc le rire du cyclope, vous y. Parler du rire. J'ai envie de vous poser une question. J'ai lu les livres. Je me suis posé moi-même la question. Est-ce que, quelque part, le rire n'est pas l'antithèse de la musique ? Je m'explique. La musique, c'est une langue universelle. Tout le monde comprend. Tout le monde aime les mêmes musiques. Voilà. Le rire, c'est le dernier bastion des frontières linguistiques. Moi, je vis depuis 30 ans en France, mais des choses que les Français trouvent ça très drôle. Et moi, je ne comprends pas l'humour. Je comprends les mots, mais pas l'humour. Est-ce que le rire n'est pas quelque part très différent de la musique ?
J'ai deux réponses. La première, c'est puisque vous parlez de la séparation du channel. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le Monty Python.
Mais ah bah vraiment... moi pas du tout. J'ai diffusé en France, je savais que ça allait marcher, mais pas du tout. Je peux regarder pendant des heures et ça me fait pas rire. Mais
il y a un truc à prendre. Il y a une entrée dans les Monty Python. Soit on rentre, soit on rentre pas. Mais je me rappelle une fois, j'étais au Grand Rex, je regardais Le Sens de la Vie et le Grand Rex était rempli et j'étais tout seul à rire. Et je peux vous dire que c'est une grande émotion de se dire, putain, je suis le seul à comprendre un truc, visiblement personne ne comprend. Et ma copine me disait, mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans ? Et j'en pouvais plus, j'étais aux larmes, mais rire tout seul au milieu de 700 personnes, c'est une étrange sensation. Et là j'ai compris, ce rire british ne fonctionne pas très bien en France, où ça fonctionne sur un petit groupe de gens qui sont rentrés dedans.
Mais je suis sûr que les jeunes Français, par exemple, connaissent beaucoup mieux les Monty Python que les Britanniques, qui ignorent complètement. Ça a été diffusé une fois dans les années 70 sur la deuxième chaîne de la la BBC tard le soir.
Parce qu'en France, on a commencé par les films. Parce qu'il faut voir le trajet des Monty Python, c'est passé par la Belgique. Alors quand on entendait les versions des Monty Python, c'était sous-titré ou alors on entendait en audio une voix belge. Et ça a mis beaucoup de temps à arriver en France, mais après les films. Moi, le premier truc qui m'a fait rire des Monty Python, c'était Sacré Graal. Monty Python, Sacré Graal.
Moi, je peux regarder pendant des heures, par exemple. Je sais comme les 699 autres personnes dans le cinéma.
Alors, sinon, j'ai une autre réponse à votre question. C'est qu'il existe un rire universel. Et dans le rire du Cyclope, j'ai cherché. Qu'est-ce qui fait rire tout le monde sur la planète, en tous les âges, toutes les générations?
En effet, vous avez raconté des blagues sumériennes. C'était la toute première blague, c'est ça? Vous avez fait des recherches là-dessus.
Oui, mais faut voir aussi, c'est la première trace qu'on a d'une blague, ça a de 3500 ans, mais c'est parce que c'est aussi la première trace qu'on a d'un écrit.
D'un écrit, oui.
C'est-à-dire, il devait y avoir des blagues orales, celles-là, on les a toutes oubliées. La première fois qu'on en voit une écrite, et elle, évidemment, à travers le temps, elle passe très très mal.
Les blagues égyptiennes et sumériennes que vous racontez ne sont pas forcément très drôles. Très franchement, c'est intéressant.
Non, c'est pas drôle du tout.
C'est fort intéressant, mais on n'est pas plié de rire.
Alors, moi, je vais vous dire donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a normalement une seule blague universelle qui fait rire tout le monde, c'est un chien qui pète. Ça, que ce soit chez les Esquimaux, les Chinois, en Afrique, quand un groupe voit tout d'un coup un chien qui pète avec l'air que prend le chien, naturellement quand il pète, ça fait l'allusion que cet animal a quelque chose d'humain et ça fait rire tout le monde. Ensuite, quand on regarde l'histoire des blagues, l'essentiel des blagues, c'est pipi caca et du sexisme.
Quand même.
Voilà, on a mis un temps fou à sortir du pipi caca et du sexisme pour arriver à l'autodérision, au nonsense, à des choses plus subtiles. Ça a commencé avec les Grecs. Les Grecs ont commencé à faire des blagues un peu plus sophistiquées. Mais j'étais en Chine il y a quelques temps, je me rappelle, toutes les blagues, c'est soit pour se moquer des femmes, soit pour parler de pipi caca.
Alors,
il faut être conscient de ça, c'est pas culturellement très bien, mais c'est la réalité.
Donc c'est quand même un langage universel.
C'est un langage universel.
Alors, qu'est-ce qui vous fait en musique pleurer ? Donc c'est un passage de la 7e symphonie de Beethoven, Simon Bolivar Youth Orchestra de Venezuela, sous la direction de Gustavo Dudamel. Votre maman était pianiste?
Oui, depuis que je suis petit, j'entends du piano à la maison et ma mère m'a toujours fait écouter la musique classique. J'ai mis un temps à passer au rock, ça a été une sorte de mutation d'un coup, mais longtemps j'étais bloqué sur je ne peux écouter que la musique classique parce qu'il y a que dans la musique classique qu'il y a des mélodies complexes. Et j'aimais les mélodies complexes, je trouvais le rock trop simpliste. Et puis après je me suis aperçu qu'il y a des mélodies complexes dans le rock et là je suis rentré en Genesis, Yes, Pink Floyd, les groupes comme ça qui m'ont fasciné.
Vous avez commencé à écrire quand ?
Très jeune, vers 8 ans. Je crois que la première fois où j'ai commencé à faire un texte de type fantastique, c'était une rédaction libre. Et le prof nous a dit, parlez de ce que vous voulez. J'avais raconté l'histoire d'une petite puce, qu'est-ce qu'elle a d'un être humain. Et ça m'avait tellement amusé que j'avais développé ça. Et par la suite, j'ai commencé à écrire des grands romans vers 16 ans. Mais à 8 ans, j'ai commencé à prendre l'habitude de raconter des petites histoires pour me détendre.
Alors c'est un vrai travail pour vous. Vous vous y mettez à quoi, 4h30 tous les matins, c'est ça? Est-ce que vous faites toujours ça ou est-ce que c'est
oui,
un peu moins?
C'est simple. J'avais lu une interview de Frédéric Dard, donc le papa de Saint-Antonio dans Paris Match, dans lequel il disait, pour moi, pour écrire un roman, il faut une régularité. Cette régularité, c'est travailler de 8h à 12h30 tous les matins. Alors je l'ai pris au mot, et à peu près à partir de l'âge de 16 ans, j'ai décidé de créer cette discipline. Maintenant, j'en ai plus de 40 et je n'ai jamais bougé. C'est-à-dire, à part ce matin où je viens vous voir, les petits aménagements quand même, quand c'est vraiment impossible, je me fixe la règle 8h, 12h30, écriture.
Qu'est-ce qui vous motive pour écrire? Parce que quand on a autant de succès que vous, vous vendez partout.
Je serai seul sur une île déserte, je continuerai d'écrire. Ce qui me motive pour écrire, c'est aller fouiller mon cerveau pour sortir des personnages et des histoires fantastiques et me surprendre
parfois.
Moi-même.
Vous vous surprenez?
Ah oui, mais c'est un vrai challenge.
Pourquoi le rire? C'était quelque chose que vous n'avez pas exploré?
Parce que c'est un mystère total. C'est une activité qui ne sert strictement à rien, rire, et qui prend de plus en plus d'importance au point où ceux qui maîtrisent le rire ont pris le pouvoir actuellement. Tous les politiciens commencent par une blague, tous les comiques sont courtisés par les politiciens, ils tiennent actuellement la société et pour certains, ils en abusent. Et je voulais parler de ça, des coulisses du rire, raconter l'angoisse qu'il y a de monter sur scène et de faire rire les gens, parce que ces gens, il y a un mérite quand même à faire ça. Et puis, le pouvoir qu'ils leur donnent, ces comiques sont entourés de petites cours de cirepompes qui font qu'ils ne connaissent plus, ils ne se rendent plus compte du réel. Voilà. Mais c'est avant tout un polar, le rire du Cyclope. C'est un polar où mes héros, Lucrèce et Isidore, vont partir à la recherche des sources du rire et comprendre est-ce qu'on peut mourir de rire.
Oui, parce que le début, il y a un humoriste qui meurt sur scène. Donc
Il meurt de rire.
Oui, absolument.
Il meurt de rire. Et la question est, est-ce qu'on peut assassiner quelqu'un ou décider que quelqu'un va mourir de rire? Et pour ça, il faut une blague qui tue, c'est-à-dire une blague qui, lorsqu'on la lit, fait rire tellement que vous mourrez sur l'instant. Et j'ai cherché à fabriquer cette blague et j'ai trouvé une solution, mais on le découvrira qu'à la fin du livre.
Absolument. Alors, une musique pour vous coucher. Alors moi, je ne connaissais pas, et même ces bruitages au début faisaient partie. C'est Andreas Vollenweider, qui m'a l'air d'être tout à fait allemand, avec son Book of Roses.
Alors il n'est pas allemand.
C'est quoi ?
Il est suisse, ouais. C'est un harpiste suisse. J'avais découvert ça dans un taxi, je roulais en Italie, tout d'un coup le type il met ça. Puis j'ai dit, mais c'est quoi ? J'adore. Et c'est une musique comme une musique de film. Donc c'est ce qui m'intéressait pour l'utiliser pour travailler, mais qui est très très riche. Et il faut savoir que le type au début, je ne sais pas, maintenant dans les albums c'est différent, mais il avait relié chaque corde à un micro, lui-même relié à un instrument, si bien qu'il arrivait à obtenir des sons de trompette à la harpe, ou des sons de guitare électrique, ou des sons d'instruments avant, de la flûte. C'est extraordinaire. Et il est très créatif, et il y a plein de petits sons. Ce qui est bien sur France Musique, c'est qu'on a une très bonne qualité audio. Donc là, il fallait entendre plein de petites nuances, plein de petits bruits derrière.
Alors, une musique pour vous réveiller. C'était le Dies Irae de Verdi, Münchner Philharmonica, sous la direction de Karl Richter. En fait, cette musique vous fait rire aussi, visiblement, parce que vous étiez en train de faire des gestes partout,
Bernard Berber. Je vous disais que ça remplace du café, on n'a pas besoin de... C'est vraiment la musique, ça répond à votre demande, la musique qui réveille. Je l'écoutais déjà et ça me dynamisait. Je me disais aussi, c'est le genre de musique qui peut donner envie d'entreprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui est un peu feignant, on lui met ça dans les oreilles il fonce.
Alors,
il y a des musiques qui donnent envie, quand on est en voiture, d'accélérer. Donc c'est peut-être des musiques dangereuses, il ne faut pas les prendre n'importe quand. Mais ça donne envie en voiture d'accélérer, en effet.
Alors, votre dernier morceau, puis après j'ai des questions, surtout qui sont arrivées sur Twitter pour vous.
Je suis prêt.
Le dernier morceau que vous avez téléchargé sur votre lecteur MP3. Alors c'est Michael Field, c'est pas nouveau, mais moi j'avais pas de MP3 à l'époque, je chargeais Tubular Bells.
Il est assez récent celui-là, mais en fait c'est les mêmes notes que Tubular Bells, inversées, jouées par un orchestre symphonique dirigé par Michael Field. Et quand j'ai découvert ça, vu que j'étais déjà en famille à cause de Tubular Bells que j'écoutais déjà en boucle, je me suis dit, il y a une énergie là-dedans et je le mets souvent pour commencer à écrire. C'est-à-dire quand je dois voir la scène, je mets ça et tout de suite arrivent des images. Et c'est très puissant.
Alors, une question que je voulais vous poser, mais ça tombe bien avec des questions qui sont arrivées sur Twitter. Vos livres sont une recherche de la spiritualité. Vous êtes vous-même, vous êtes membre d'honneur de l'Institut de Recherche sur des Expériences Extraordinaires. Il y en a une flopée sur votre site, dont j'étais le 3 704 474e fourmi connecté hier. Vous pouvez aller sur le site.
Ah, c'était voilà,
c'était moi. Êtes-vous croyant? C'est une question qui nous arrive de Crumbling. Ça résume en fait tout ce que je voulais dire.
Oui, c'est très simple. Je suis agnostique, c'est-à-dire agnostique, je ne sais pas. Pour moi, les croyants sont des gens qui prétendent savoir, de même que les athées sont des gens qui prétendent savoir que Dieu n'existe pas. Donc croire que Dieu existe ou croire qu'il n'existe pas, ça m'a l'air de prétention. Je ne sais pas, donc je me renseigne. Ce n'est pas pour autant que la chose spirituelle mais étrangère, au contraire, je crois que c'est un cheminement, mais que ce cheminement, il faut au moins toute une vie. Et je suis assez méfiant de tous les gens qui ont des certitudes et qui veulent casser à tous ceux qui sont la gueule à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux.
Alors, j'ai vu que pour avoir une vie complète, il faut avoir, vous dites, fait une œuvre artistique, connu une histoire d'amour, fait un enfant, avoir éduqué et avoir planté un arbre. Vous avez tenu à planter un arbre, pourquoi?
Oui, pour que ma vie soit complète.
Elle l'est?
Pas
encore.
Si, je crois qu'elle l'est, Je crois que oui, mais j'ai eu tout ce que je peux attendre de la vie. Maintenant, c'est cadeau.
Alors, j'imagine que comme vous sortez, faites beaucoup de pubs pour votre livre qui va sortir la semaine prochaine. En fait, comme tous les écrivains, vous êtes plutôt vous dans le livre d'après, j'imagine. C'est ce qui se passe parce que on écrit un livre, on le donne à l'éditeur et quelque part, on l'a fait. Et ça tombe bien avec une question de Lepifokovski qui nous écrit sur Twitter. De quoi parlera votre prochain livre? C'est ça la question toujours intéressante quand on sort un livre, non?
Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai écrit 200 pages de synopsis et que ça m'amuse énormément au point où je rigole tout seul devant l'ordinateur quand je travaille, ce qui doit pas, je dois passer pour un cinglé. Je travaille au café en général, donc
je peux pas. Vous êtes dans un café quand
Oui, parce que j'ai besoin de voir des êtres humains autour de moi pour parler des êtres humains et j'entends
des choses. Fourmis, vous avez besoin de vous mettre dans une fourmilière.
À l'époque des fourmis, je restais face à une fourmilière, oui.
Non.
Mais j'allais pas au café là. Oui, à l'époque, je restais à la maison, observer une fourmilière en écrivant. Donc le sujet, non, il est secret. Et je vais vous dire pourquoi il est secret, parce que des fois, à mi-parcours, j'abandonne le livre, parce que je m'aperçois que finalement, ça ne tient pas si bien que ça, ses promesses.
J'ai vu que parfois, il y a 20 exemplaires différents de vos livres.
Oui, je vais écrire plusieurs fois le même livre. Vous savez, c'est un peu comme le mastermind. Je cherche la bonne formule, donc je fais une formule, je relis, je m'aperçois que ça ne tient pas, je recommence tout à zéro, mais sans utiliser la commande copier-coller. Donc, de mémoire, et ce qui fait que, par exemple, sur Le Rire du Cyclope, qui sort actuellement, j'ai à peu près 20 romans avec les mêmes héros, plus ou moins le même principe d'intrigue, mais les péripéties sont complètement différentes, les lieux sont complètement différents. C'est comme si j'avais 20 esquisses du même roman, mais chaque esquisse fait quand même 600 pages. Alors, donc j'écris 20 fois 600 pages pour en avoir la dernière version.
Alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est cette expérience que vous faites avec votre iPhone. Si on passe devant le livre, j'ai vu ça, vous pouvez le regarder sur le site de Bernard Weber, si vous passez devant le livre et vous montrez votre iPhone à la couverture du livre, et ben vous vous nous parlez. Oui, quoi, c'est tout nouveau, on n'a jamais vu ça.
C'est mon éditeur qui s'est aperçu que j'adore les nouvelles technologies. Je suis un ancien journaliste scientifique. Chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui apparaît, il me dit tu veux tester ça. Et donc là, il m'a parlé de ça. J'ai dit oui, il faut qu'on soit les premiers, il faut qu'on avance. Mais c'est vrai que c'est une expérience mondiale unique avec une équipe française qui est à la pointe de cette technologie.
Bernard Werber, donc c'est le rire du cyclope qui sort donc le 1er octobre en librairie, c'est ça?
Et on est. Je fais une dédicace chez Virgin le 30 septembre, donc ça doit sortir
sur votre site web aussi.
Le 30 septembre vers 18h.
Ah bah, le 30 septembre, c'est demain. Donc voilà. Donc ce sera.
C'est ma première interview.
C'est vrai, mais on est absolument. Pourquoi vous avez choisi France Musique alors?
C'est France Musique qui m'a choisi.
On était ravis de vous avoir, en tout cas.
Moi aussi.
Donc, le rire du Cyclope, merci beaucoup, Bernard Werber.